Attends.
C'est bon.
C'est bon.
Salut les centristes, bienvenue sur Paris Central, votre petite quotidienne, samedi, midi et demi, vous connaissez le rendez-vous. Je suis avec Basto, comment ça va Basto?
Ça va parfaitement, merci.
Ainsi que notre ami qui partage souvent les plateaux, monsieur Ricoba est avec nous.
Salut, salut, très content d'être là, le midi, posé, on va discuter Paris Saint-Germain, quoi de mieux?
Quoi de mieux, on a quelques sujets à vous proposer, n'hésitez pas d'abord à liker le live, partager bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas fait, et on attaque tout de suite parce qu'on a du boulot les gars, on a du boulot. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions, vous êtes tous au courant, on était en live pendant la semaine, et j'aimerais vous lancer, donc je vais tout de suite lancer Basto là-dessus, meilleur et pire tirage pour le Paris Saint-Germain. Il faut que tu nous dises absolument quel est ton meilleur tirage pour le PSG, Basto. On sache ça. Là.
Alors, je vais m'expliquer parce qu'il y en a qui vont peut-être tomber du ciel dans ce que je veux dire. J'ai pas envie forcément du vainqueur d'Eindhoven Dortmund, tu vois, même si ce serait le plus facile sur le papier. C'est pas ce que j'appellerais ouais. Meilleur tirage. Moi, j'ai envie de me mesurer à une équipe un peu plus costaude que la Sociedad. Pas City, pas le Real. Des raisons diverses, donc ça c'est les pires tirages, City Real. Mais un club intermédiaire, un Arsenal, tu vois, qui a un peu le côté loose comme nous, qui est un peu jeune comme nous, et qui se cherche aussi, ça, on saurait où on en est si on joue Arsenal. Ce serait une grande indication d'où on en est. Alors que si on joue la Sociedad, derrière on joue le vainqueur d'Eindhoven Dortmund qu'on passe, et qu'en demi, bah, on joue City et ils sont trop forts pour nous, on ne sait pas où on en est. Donc meilleur tirage, club intermédiaire, Arsenal, voire Inter, mais Inter c'est peut-être un peu trop chaud aussi. Et pire tirage, City, Real et adversaire trop facile.
Mais Koba, comment tu vois ça, toi?
Bah, j'ai un petit peu le même avis, donc ça va pas être très original. Après, à choisir, je préfère quand même avoir un petit, hein, histoire de... Et encore, un petit, c'est pas fait, attention. Hein.
Oui, bien sûr.
Toutes les équipes qui seront en quart n'auront pas volé leur place, donc il faudra encore faire le job. Mais c'est vrai qu'on aurait un petit peu plus d'indications en jouant un club un petit peu plus haut comme Arsenal ou même comme l'Inter. J'ai quand même envie d'éviter City et le Real parce que... Bon, si tu sortirais une énième fois en quart de finale, on va pas se mentir, ça me paraît très compliqué quand même d'éliminer un des deux, même si le Real a montré beaucoup de faiblesses face à Leipzig, mais ça reste le Real et les sortir, bah, ça reste encore mission impossible. Même si Leipzig aurait pu, bah, ils auraient pu, mais il y a toujours le Real qui finit par se qualifier au bout du bout. Donc personnellement, ouais, je suis assez d'accord avec lui. J'aurais préféré avoir, un club intermédiaire histoire de pouvoir avoir une confrontation plus difficile et pouvoir savoir si justement on peut avoir le niveau et peut-être aller plus haut et dans ce cas avoir un plus gros en demi-finale. Mais en quart, j'aimerais quand même éviter City et Madrid.
Très bien. Bon, donc on a compris. Éviter City et Madrid, ça c'est vraiment le pire du pire pour le Paris Saint-Germain. Vous n'avez pas parlé de Porto parce que Arsenal, même si
on part du principe qu'Arsenal va se qualifier, quoi.
Le vainqueur de Naples Barça, c'est pas mal aussi pour nous.
Ah, ouais, Soldes qui nous dit le Napoli, le Napoli, c'est pas
en fait. Idéalement, moi, mon adversaire, si je dois choisir un adversaire, ce serait le Barça. Moi, j'adorerais avoir le Barça, mais personnellement, je vois Naples se qualifier. Donc,
est-ce que c'est pour des raisons sportives ou plutôt une histoire de revanche?
Bon, c'est plus histoire de revanche. Hein.
Ouais.
Parce que sportivement, on ne va pas se mentir, c'est compliqué le Barça, surtout en ce moment. En plus, ils ont beaucoup de blessés. Pour le coup, eux, ils n'ont vraiment aucune garantie. Ils sont dans une dynamique assez négative. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vois le Napoli se qualifier, parce que collectivement, je les sens quand même un petit peu plus costauds, même mentalement, même si on sait qu'il y a des petits soucis de vestiaire. Mais je sens plus une équipe plus soudée, plus capable de tenir le coup et de se qualifier plutôt que le Barça. Mais c'est vrai que le Barça, il y a cette rivalité entre guillemets historique qui s'est créée ces dernières années surtout, qui ferait que ce serait un beau quart de finale.
Il y a Victor qui dit éviter le Bayern.
Oui, justement, j'ai trop lancé là-dessus, Basto. Le Bayern, c'est... Tu vois ça comment, toi, le Bayern, au cas où?
Moi, je préfère l'éviter pour la simple et bonne raison que je ne supporterais pas d'être éliminé par Thomas Tuchel. Donc, je ne préfère pas prendre le risque. Maintenant, on sait que Munich est malade. Munich est un peu en crise. Ça ne se passe pas bien avec Tuchel. Mais bon, c'est des joueurs qui ont tellement d'expérience. Et on l'a vu contre la Lazio au match retour. Que même avec des brise-brise avec le coach, ils peuvent être très dangereux sur un aller-retour. Donc, je préfère les éviter quand même aussi.
Très bien, très bien. Et n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Vous êtes déjà... nombreux, n'hésitez pas du coup à liker et partager ça. On a Brad qui nous dit Inter, en vrai, ce serait un très bon tirage, gros tirage, ils sortent d'une finale de Ligue des Champions. On les a jamais affrontés en Ligue des Champions. Oui, mais...
On les a affrontés cet été, je crois, en tournée au Japon, si je ne me trompe pas.
Ouais, mais ça...
Après, c'est, oui, évidemment, c'est rien.
Ouais, c'est pas... Il y a Kieran Nito qui nous dit le Bayern, c'est très faible au milieu et en défense.
Bon, ouais. En fait, le Bayern, ça fait partie quand même des équipes que tu n'as jamais envie de tirer, même s'ils ne vont pas bien. Il y a des joueurs qui sont ultra talentueux. Collectivement, ils sont capables quand même de faire quelque chose aussi. Ce n'est pas évident, mais après, si tu les classes, pour moi, je préfère éviter l'Inter par rapport au Bayern. Et je préfère éviter City et Real. Le Bayern, pourquoi pas? Ça pourrait être une revanche aussi de l'année dernière. Et ils semblent plus mal en point que l'année dernière, et nous mieux que l'année dernière. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, il y a pas mal de tirages qui sont à notre portée. Hein. Donc, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Bon, très bien. Donc, en tout cas, club à éviter, Manchester City, Real Madrid... Et puis
même l'Inter, attention, juste pour finir, ouais, parce que c'est... je vois... Ouais, c'est l'Inter, faut qu'il se qualifie. L'Inter, faut qu'il se qualifie aussi, attention. Parce qu'il n'y a eu que 1-0 contre l'Atlético, ils vont aller jouer là-bas maintenant. Attention, la qualif, elle n'est pas faite non plus.
Elle n'est pas faite non plus, mais bon, c'est comme Arsenal d'ailleurs. C'est pour ça qu'Arsenal Porto, on en parle peut-être moins, alors que le retour de ces clubs-là au plus haut niveau, en tout cas en quart de finale, pourrait être bien pour nos rouges et bleus. Je suis sûr que le PSG va tirer le Real, nous dit Libertagang. Ah. L'Inter, je vois aussi dangereux que le Real ou City, nous dit Moscou 911. Bon, c'est une possibilité, c'est vrai.
Une autre chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'un bon tirage, ce serait aussi recevoir au retour à domicile, ce qui n'est jamais arrivé sous l'ère QSI.
En quart de finale?
Ouais.
Ouais. Ouais, en quart de finale,
C'était dans les années 90, hein, je crois, que c'était arrivé la dernière fois.
Ouais, c'était avant QSI, ouais, c'est ça.
Ouais, bon. Allez, petit instant, cooling break, on y va, on y retourne. On a des sujets à aborder. Les gars, n'hésitez pas à réagir en commentaire, on compte sur vous. Voilà, c'est votre live autant que le nôtre. Warren Zaïre-Emery. Les amis, notre ami Warren Zaïre-Emery, notre pépite, notre titi, vient de fêter donc ses 18 ans hier, et donc dans les papiers, voilà, c'est une prolongation de contrat qui s'apprête à être posée sur la table. Sauf, qu'est-ce qu'on fait les amis? Contrat en or, ou faut pas brûler les étapes? Parce que, on a quand même vu... des histoires de 6 millions, de 10 millions, de 12 millions, de 7 millions. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Comment vous voyez ça, monsieur Recoba? On va avoir votre sentiment parce qu'il faut faire attention quand même, mine de rien.
Bon, on va attendre de voir déjà ce qui va être officiel et le contrat qu'on nous dit officiel, parce que pour l'instant, voilà, ça reste non officiel. Par contre, si c'est vraiment annoncé, les chiffres qui sont annoncés sont réels au final, ouais, moi je trouve ça un petit peu abusé quand même. Le jeune a 18 ans, même si évidemment c'est le futur du Paris Saint-Germain et même du football, parce que c'est quand même un crack au milieu de terrain et je pense qu'il aura une grande carrière devant lui. Mais ça me dérange de commencer à donner des contrats comme ça. Il va être sur son premier contrat professionnel, hein, si je ne me trompe pas. Donc là, aujourd'hui, il a un salaire évidemment de misère. Alors, je pense que justement, avec ses primes, il doit plus toucher avec ses primes qu'avec son salaire actuel. Donc, encore une fois, ce serait se tromper, ce serait sauter des étapes. Et surtout que Zaïre Emery, ça reste un amoureux du Paris Saint-Germain qui a envie de faire plusieurs années au Paris Saint-Germain, voire peut-être toute sa carrière. Donc, tu n'es pas obligé de lui mettre un contrat faramineux pour le convaincre de rester. N'importe quel contrat, il resterait. Donc, évidemment, augmente-lui son salaire, donne-lui un vrai contrat dans la moyenne, on va dire, de l'effectif. Mais tu n'es pas obligé de le mettre directement dans les tops de l'effectif.
Basto, comment tu réagis à ça, toi?
Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est...
Et surtout, comment tu gérais le truc à ton...
Ouais,
si tu as été décisionnaire.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Créco. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Nasser est en première ligne. Quand je vois Nasser est en première ligne, souvent, c'est des salaires mirobolants. On sait qu'il s'est impliqué personnellement cet été sur Lucas et Dembélé, qui font partie des plus gros salaires du club. C'est à la limite. Pourquoi pas venir de Barcelone Munich, mais on sait aussi que Colomboigny touche un salaire parmi le top 7-8 de l'effectif. Et c'est Nasser qui s'était impliqué personnellement. J'ai peur de Nasser. Voilà, il a voulu faire de Mbappé sa figure de proue du projet. Et là, on sait que maintenant, on veut un PSG. Alors, c'est le storytelling, hein, même si ce n'est pas dans les cas la vraie réalité. Paris, plus calme, Île-de-France, mentalité, etc., etc. Et c'est vrai que Zaïre Emery représente tout ça. Et donc, vu ce qu'il représente, j'ai peur que Nasser arrive et ait peur qu'il parte libre et tente de le saccader. Mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir plus tard peut-être d'autres problèmes, c'est-à-dire un Emery qui, au moment... Ça, c'est dans des années. Hein, je pense qu'il va rester quelques années, mais à un moment, peut-être, où il voudra partir, le club le bloquera. Mais vu qu'il a trop gros salaire, lui, il ne prolongera plus, etc. On n'en est pas encore là. Moi, ce que je ferais, c'est que je donnerais un salaire assez important, mais pas dans le top 6-7 de l'effectif. Pas encore. Je pense qu'il n'est pas au niveau d'avoir un salaire des Dembélé, des Lucas Hernandez, des Donnarumma, qui ont gagné des grandes compétitions, qui ont été internationaux à plusieurs reprises, et Emery n'a été qu'une fois. Ce serait pas bon ni pour le joueur. On en parlait hein, c'était, aussi en septembre, octobre, quand il commençait à être capitaine des espoirs, puis vite appelé par Deschamps, qui brûlait très vite les étapes. Alors forcément, ça joue sur le salaire qu'on veut lui donner. Mais attention, Emery en 2024 n'est pas maître non plus du jeu. Il a un petit coup de mou. C'est pas catastrophique, mais on voit qu'il a encore beaucoup de paliers à franchir pour être vraiment dans le chapeau 1 des milieux de terrain. Donc, ne brûlons pas les étapes, donnons-lui un salaire qui équivaut à son potentiel et à son niveau, mais pas un salaire qui en fait déjà un top joueur.
Oui, parce que dans les commentaires, il y a Crisip qui nous dit « Tu lui mets un contrat monstrueux, tu le flingues. Ça y est, il se croit arrivé. Le problème, c'est que Nasser est un négociateur très mauvais. » Ah, ça, c'est… Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est déjà arrivé. Il faut faire attention là-dessus. Moi, je vais vous relancer là-dessus. En fin de compte, si on lui met des gros salaires maintenant, comment tu gères la suite ? Il y a deux erreurs à ne pas faire. Deux erreurs principales, je pense, à ne pas faire, messieurs. Le traitement qu'il y avait eu avec Rabiot et Kimpembe, alors qu'ils étaient, surtout pour Rabiot, qui était performant en Champions League et qui se calquait sur le salaire de Verratti. Et il y avait une trop grosse différence entre les deux. Alors, sportivement, ça ne se justifiait pas tant que ça. À la suite de ça, il y avait Kimpembe qui a à peu près la même carrière que Marquinhos, même s'il a plus de blessures. Marquinhos est beaucoup plus souvent là que lui. Mais différentiel, il se ressentait pas tant que ça sportivement. Et sur le salaire, l'un était à le double de l'autre, si ce n'est plus. Donc, c'est ces erreurs-là à ne pas répéter. Après, il y a des erreurs aussi à ne pas répéter encore. C'est-à-dire d'avoir un mec comme Marco Verratti qu'on prolonge tous les ans et demi, tous les deux ans, et qu'on blinde comme ça, qu'on monte, sans être réellement réelle performance sportive qui justifie ces salaires-là. Donc, il faut bien gérer, parce qu'on est au début d'un projet. Si tu le blindes tout de suite, il faut gérer les trucs. En fait, il ne faut pas recréer des monstres. C'est ça qui est un
truc. Ouais, c'est ça. Mais tu parlais justement de Verratti et Rabiot, mais là on serait peut-être dans le souci, mais inverse, parce que si tu commences à mettre Zaïre Emery au-dessus de tous les autres milieux de terrain, que ce soit des Vitinha, des Ugarte, voilà, etc., ces mecs-là, ils vont te dire attends, le petit jeune là, il n'a pas forcément quel milieu de terrain, mais au niveau des performances, c'est peut-être pas forcément meilleur que moi. On n'a pas le même âge, on n'est pas au même stade de notre carrière. Moi, je veux la même chose. Et ils vont vouloir renégocier, se calquer, etc. Tu peux commencer à te taper le vestiaire un petit peu sur le dos parce qu'ils voudront justement être alignés au même salaire. Donc, je pense qu'il faut y aller petit à petit. Pour l'instant, moi, je lui donnerai un salaire vraiment médian. Enfin, tu prends la tranche de l'effectif, tu prends le salaire médian, tu lui mets le salaire médian sur un contrat de 4 ou 5 ans, et puis dans 2 ans, tu renégocies, tu lui mets, suivant son avancée, un salaire un petit peu plus avancé aussi pour rentrer peut-être dans les 30-25% des meilleurs salaires du club. Et voilà, petit à petit, je pense qu'il n'y a pas vraiment une nécessité aujourd'hui de blinder le joueur, surtout qu'il est très jeune et qu'il a envie de s'inscrire dans le projet du Paris Saint-Germain à long terme, donc c'est même pas comme si tu avais besoin de le convaincre.
Vitinha, c'est 5,5 millions. Tu vois, tu donnes un salaire à Emery qui, je sais pas le salaire médian, mais qui s'approche de celui de Vitinha, peut-être un peu moins, 4,5 pour commencer. Mais c'est vrai que si tu lui donnes d'un coup 9-10, Vitinha, il va dire et moi ? Non, il faut pas récréer ce qu'on avait fait en début du projet, ce qu'a dit Gato, c'est-à-dire le déséquilibre des grilles salariales au sein du vestiaire, ce qui peut après créer problème dans chaque fin de contrat et dans chaque prolongation.
Oui, surtout que là, Il y a l'anomalie Mbappé qui va partir. D'autres qui sont à 20 millions, c'est des champions du monde, c'est des gars qui ont tapé des Coupes d'Europe. Ou... voilà. Après, il y a Marquinhos qui est le capitaine qui est au-dessus. Aussi, avec les années dans le club, moi, j'aurais pas donné ça, mais avec les années dans le club, c'est logique qu'il soit au-dessus des autres. C'est aussi le capitaine qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Non,
ça, c'est vrai que quand
après, il y a des anomalies. J'entends, je vois Lee est à 7 millions.
Lee à 7 millions, Nuno à 2. Mais après, c'est pas la même chose. Mais...
après, attention, Kangin Lee aussi te ramène énormément d'argent. C'est pour ça aussi qu'il est un petit peu plus payé, ouais, tu vois.
C'est aussi pour ça. Ça. Et,
d'ailleurs, il y a une boutique qui a ouvert à Séoul.
Oui, voilà.
Donc, tout juste.
Il y avait l'exemple de Fabian Ruiz.
Et on va porter le maillot demain, d'ailleurs. Un peu floral.
Du coup, il sera titulaire.
L'exemple de Fabian Ruiz qui a été évoqué. Oui, pourquoi lui, il a 9 millions. Ou d'exemple d'autres clubs. Dès lors que Pedri, je crois, il a 10 millions à OC Barcelone. Sauf que malheureusement pour eux, il y a eu beaucoup de blessures. Et ça grince un peu des dents. C'est-à-dire que 10 millions, ah, tu donnes 10 millions. Mais... et le problème, c'est que là, Warren Zaïre-Emery va rentrer dans une autre phase de sa carrière. Où c'est terminé d'être le chouchou, le titi, on t'aime beaucoup, si tu fais une erreur, on va rien dire. Non. Dès lors que tu as un gros salaire ou un salaire un peu plus conséquent, ah, tu as ce salaire, il faut que tu me justifies. Il faut que tu justifies. Et donc, Emery a 5 millions pour un contrat de 5 ans avec revalorisation dans 3 ans. Ça paraît correct, pour Warren Zaïre-Emery. Bon. Voilà, c'est ça. C'est
un joueur de foot ou un commercial? Non, mais tu sais comment ça se passe dans le football. Un joueur qui c'est comme ça. Un joueur qui te ramène beaucoup d'argent, il peut avoir un salaire un petit peu plus élevé.
C'est vrai. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker. On est énormément, on est beaucoup dans ce live. Il n'y a pas beaucoup de likes, donc on va essayer de liker. On s'abonne et on va continuer ensemble. Parce que vous réagissez quand même assez bien dans les commentaires. On vous remercie. Basto. Ah. Basto. Beraldo. On fait comment avec lui? Est-ce qu'il est titulaire plus souvent après son match contre la Real Sociedad? Comment tu vois ça, toi?
Bah, titulaire plus souvent qu'il l'est actuellement, ça va être compliqué puisqu'il joue tous les matchs avec les retours de blessures, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'il aura besoin de souffler à un moment. C'est vrai qu'il a fait le championnat complet au Brésil, il enchaîne assez directement à Paris, il a joué déjà 10 ou 11 fois titulaire, enfin, il me semble, enfin, peut-être pas autant, mais il a joué 90% des matchs titulaires depuis qu'il est arrivé. Mmh. Et il y a un moment où il faudra peut-être se souffler. On oublie qu'il en a 20 ans tellement il a montré de la maturité au dernier match et contre Monaco. Maintenant, attention à ne pas en faire trop non plus, parce que c'est vrai qu'après la Sociedad, il est passé de Campos, t'es une merde, tu nous as ramené un joueur qui vaut rien, hein, d'un coup, ah, Beraldo, faut le mettre titulaire, on ne le bouge plus. Attention, on a la chance d'avoir, quand Skriniar reviendra, Marquinhos, Danilo, même s'ils ne sont pas tous performants, au moins, il y a 4-5 joueurs pour ces postes-là. Maintenant, Beraldo correspond parfaitement au jeu que veut Enrique. On l'a vu, hein, le nombre de lignes qu'il casse sous pression contre la Sociedad, ça change un peu tout dans le jeu que veut mettre en place Luis Enrique. Donc Beraldo sera important pour lui et je pense que Beraldo va devenir assez rapidement, à moyen terme, un titulaire dans cette équipe. Mais il ne faut pas en faire le joueur déjà accompli, le joueur déjà installé, on ne bouge plus. Non, il faut le mettre dans une rotation tranquillement.
Ricoba.
Ouais, je pense aussi. En fait, je t'aurais dit de base, non, c'est comme Warren, à partir du moment où, peu importe si t'es jeune, t'es très bon et tu peux enchaîner, tu enchaînes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même le facteur de la saison entière qu'il a joué au Brésil. Et puis, il y a la jurisprudence Pedri qu'on a encore vu ces derniers jours avec une nouvelle blessure. Et à un moment donné, ils ont beau être jeunes, il faut faire attention. Avec Warren, c'est pareil. Luis Enrique le fait souffler, c'est très bien. Et je pense qu'avec Beraldo, c'est la même chose. Il a une saison entière dans les jambes. Il enchaîne une demi-saison avec nous. Il joue quasiment tous les matchs depuis qu'il est arrivé, que ce soit à gauche ou en centrale. Donc, évidemment qu'il est super bon et il a un énorme potentiel. Et sincèrement, ça fait plaisir à voir. Mais je pense qu'il faut y aller petit à petit. Maintenant, il enchaîne beaucoup, évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup de blessés, notamment Skriniar, Danilo et Marquinhos. Maintenant, je pense que petit à petit, Danilo et Marquinhos vont revenir. Il y a Skriniar qui commence à se réentraîner aussi, je crois. Donc, on va pouvoir faire tout. Ouais, il y a Nuno Mendes, évidemment. Exactement. Donc, je pense que petit à petit, on va retrouver du monde et on va pouvoir faire tourner un petit peu plus. Maintenant, pour ce qui est des titulaires, si on a tout le monde au complet, je pense qu'effectivement, Beraldo a une vraie carte à jouer parce que ses qualités sont indéniables et il a une vraie qualité de relance pour casser des lignes. Il a une vraie maturité aussi pour son jeu. Il est très calme. Et ça, mine de rien, pour ce que demande Luis Enrique, c'est très important. Et je pense que, du coup, dans la hiérarchie, il pourrait passer devant Skriniar, voire devant, devant Danilo. Donc, à voir après qui tu mettras, si tu joues à 2 ou si tu joues à 3. Parce que tu peux aussi, on voit les mauvaises performances d'Hakimi ces derniers temps, tu peux jouer avec Nuno un petit peu plus haut, comme le faisait Hakimi sur le début de saison, et jouer avec 3 centraux. Marquinhos un petit peu plus côté droit, et Hernandez et Beraldo.
Avec Hakimi suspendu en quart aller.
En plus. Donc c'est vrai que ça va t'offrir des possibilités, et tant mieux, on va pas s'en plaindre.
Ouais. Très bien. Mais bon, de toute façon, en défense centrale, ça toujours mieux, je pense, qu'en latéral gauche, puisque en latéral gauche, il a été mis en difficulté. Après, il ne faut pas trop en faire non plus. Il a fait des bons matchs comme de mauvais matchs. Sa polyvalence, je la remets en doute, mais après, on va voir. En tout cas, avoir un jeune comme ça de 20 ans, c'est bien. C'est bien. Et il y a Roberto Rodriguez qui nous dit n'oublions pas Kimpembe.
Non, c'est faux ce qu'il dit sur lui. Juste, parce que c'est une légende, Lee touche moins de maillots qu'Mbappé, il en touche plus à l'extérieur. Mais si tu prends toutes les ventes en France et autres pays, c'est Mbappé.
Ah, à l'étranger. Ouais. Ils vendent plus de maillots à l'étranger.
Okay. Ils vendent plus de maillots à l'étranger, mais en cumulé, c'est Mbappé qui en vend le plus devant Lee qui est 2.
C'est vrai qu'il y a eu la rumeur Théo Hernandez, vous en pensez quoi, vous?
Et, ça a été démenti par Romano. Ils ont cité Fabrizio Romano et Fabrizio Romano a dit j'ai jamais dit ça.
Terminé, bonsoir.
De faire dans un club, ça peut amener pas mal de problèmes. Voilà.
Je veux pas que Alors, n'oublions pas Kimpembe, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, en fait, il n'est pas dans la discussion aujourd'hui.
Il va jouer au foot déjà.
Est-ce qu'il va jouer au foot? Si ça tenait qu'un mois, je suis honnête avec vous. Moi, j'ai déjà dit, toutes les personnes qui sont là avant la saison 2017-2018, pour moi, c'est dehors. Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa. Voilà. Et Kimpembe, que ce soit quelqu'un qui est soit du côté de la formation pour aider, qui incarne quelque chose au Paris Saint-Germain très bien, si on, à la fin de sa carrière, qu'il veuille revenir, il n'y a aucun problème pour jouer un rôle. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai besoin déjà de joueurs qui soient là sportivement pour créer une concurrence. Et surtout, Kimpembe, il a un passif au club. Je pense que le livre peut se terminer là. Il y a de quoi faire avec d'autres personnes. Kimpembe, ça fait très longtemps qu'il est là. Pour les mêmes raisons que Marquinhos aussi. Il a fait du bon, il a fait du moins bon. Il y a peut-être un plafond d'air aussi qui a pu être atteint à un moment. Il a du mal à enchaîner. J'espère qu'il pourra rejouer au foot. Ça, c'est la première des choses. Moi, Kimpembe, si je peux m'en séparer, je m'en sépare. Et justement, si on n'est pas lucide sur le cas Kimpembe, je ne dis pas que vous êtes lucide et je ne suis pas lucide ou que je suis lucide et pas vous. C'est pas ça. C'est juste que il faut des joueurs qui soient là, qui puissent jouer au football. Et puis, il y a d'autres joueurs qui arriveront. Si on parle d'un nouveau projet, Kimpembe fait partie aussi d'un PSG, d'un passif qui était assez lourd.
Bah, c'est Kimpembe, on ne se poserait pas la question si c'était Danilo. Mais comme c'est Kimpembe, que c'est un Titi et qu'on a aussi beaucoup d'attaches, bah forcément, on laisse une chance, on se pose la question, etc. Mais Kimpembe, ça aurait été un autre joueur.
Kimpembe, ça montre toutes les erreurs qu'on a fait. Tu vois, quand on a l'offre de Chelsea, pas l'été dernier, mais il y a deux étés,
ouais, 60 45 millions.
Ouais, 60 millions, il n'a plus que 2 ans de contrat ou même 1 an, je ne sais plus à ce moment-là. Non, peut-être 1 an et demi, enfin bref. Dans 1 an et demi après, il était libre, donc il avait 2 ans de contrat. Mais 60 millions, tu sais que Kimpembe a atteint un peu un plafond. Tu sais qu'il est ric-rac, qu'il a joué beaucoup blessé, qu'il a beaucoup forcé. Tu le fais pas, tu le gardes. Et derrière, bah, il a joué 15 matchs en 2 ans parce qu'il s'est blessé tout le temps. Tu te dis, mais pourquoi, tu vois? On ne sait pas vendre. Il y a des joueurs qu'on ne sait pas vendre. Et comme c'est pour ça qu'on dit, c'est Enrique. Enrique l'a dit lui-même. Soit les joueurs partent libres, comme Mbappé, soit ils font leur carrière à Paris. On a un problème là-dessus, savoir vendre dans le bon timing. Et Kimpembe, c'est le symbole de ça.
Bon, la parenthèse de Kimpembe, les amis.
Je voulais juste répondre vite fait, parce qu'on a parlé de Beraldo juste avant Kimpembe. Il y avait le commentaire de Vincent, avec qui je suis jamais d'accord. Et une fois de plus, je ne serai pas d'accord. Tout le monde s'enflamme.
Il a dit qu'il faut se calmer avec Beraldo, tout le monde s'enflamme. C'est ouf. Il a fait un bon match.
Alors, tout le monde s'enflamme, je peux l'entendre. Comme l'a dit Basto, c'est vrai que soit on le détruit, soit on en fait des caisses. Maintenant, il a fait un bon match. Non, je ne suis pas d'accord. Quand il a été trimballé latéral gauche, qui n'est évidemment pas son poste, et en plus de ça, avec ses défauts et qui est la vitesse, forcément qu'il a été en danger face à des joueurs comme Kubo. Mais à chaque fois qu'il a joué en défense centrale, c'est-à-dire, je crois, 3 ou 4 fois, il a été bon. Donc, il n'a pas fait seulement un bon match. Il a été très bon face à Monaco, il a été très bon face à la Sociedad. Et là, on parle d'un match à l'extérieur de Ligue des Champions, là où bon nombre de nos joueurs, aussi forts qu'ils soient, se sont toujours troués, surtout à son poste sous pression. Et pour le coup, il a répondu présent largement comme il fallait. Donc, de réduire ça à seulement un bon match, non. Déjà, le très bon match qu'il fait contre la Sociedad, il est à noter. Et en plus de ça, les matchs qu'il a fait avant en centrale, il a été très bon. Donc, évidemment, il faut rester mesuré. Parce que c'est pas parce qu'il a fait ce match-là qu'il va forcément faire une grande carrière et exploser, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à César ce qui appartient à César. Et pour l'instant, à chaque fois qu'il a joué en centrale, il a été très bon et ça promet. Voilà, voilà.
Il a répondu. Ça, c'est parfait. Il y a eu aussi d'autres matchs de la Ligue des Champions, les gars. Cette semaine, on a vu Manchester City face à Copenhague. On a vu évidemment le PSG se qualifier. Sauf que. Ah, après le Paris Saint-Germain, il y a eu un match intéressant. Le Real recevait le Rasenball Sport Leipzig et on a un joueur là-bas qui est prêté, monsieur Xavi Simons. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match face au Real, même sur la double confrontation? Et deuxième question, est-ce qu'il peut s'imposer l'année prochaine, mon cher Basto? Les gars, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je regarde dès que ça arrive. Donc, faut pas hésiter.
C'est pas pour moi cette question, je vais me faire détruire.
Et on voit par la.
Non, qu'est-ce que j'ai pensé de la double confrontation de Simons contre Leipzig? Lui, pour le coup, s'il y a un joueur dont on en fait des caisses, je trouve que c'est bien lui, actuellement dans la communauté des supporters du PSG, encore plus que Beraldo et compagnie. Simons, ça fait 2 performances honnêtes contre le Real, même plutôt bonnes. Mais on a l'impression que sur les 2 matchs, c'était Ronaldinho. Selon les gens, on nous dit « qui fait ça à 20 ans contre, en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real ?» Les matchs qu'il a fait, tu vois, il va le 5,5-6, c'est bien. Mais c'est pas 8, 9 sur 10. Donc, on en fait énormément sur ce joueur. Alors, on peut nous sortir ses stats. C'est vrai qu'il stade beaucoup dans un championnat qui est fait pour lui, qui est ouvert. Mais il a surtout staté en début d'année. Là, il a un peu plus de mal en plus dans ce domaine-là. Dans le jeu, il a fait sa place, il a fait son trou. Il est titulaire à Leipzig, qui est un très bon club. C'est déjà très bien. Maintenant, si on le prend au PSG, il saute qui? Il ne va pas sauter Dembélé, Barcola. Barcola, il pourrait, mais vu qu'Enrique veut faire du 1 contre 1 sur les ailes, ce n'est pas le profil. Je ne le vois pas être utilisé lié gauche. Aujourd'hui, il ne prend pas la place de Vitinha au milieu. Mais d'ailleurs, Simons, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué au milieu. Et il y a des raisons pour ça. Donc, Simons qui revient dans une rotation, évidemment. Mais là, quand je regarde les 11 types des supporters parisiens de l'année prochaine, quasiment tout le monde met Simons dans son 11. Waouh, calmos.
Voilà, tu as une question à garder pour tout à l'heure. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense? Je suis assez d'accord avec Basto.
Il a ridiculisé Kroos, il a dit à l'infini.
Non, mais attendez.
J'ai toujours été mesuré sur Xavi Simons. Déjà, ce mercato l'année dernière, on en parlait. Et il faut rester mesuré. Le problème avec Simons, c'est que c'est un jeune qui était au Paris Saint-Germain. C'est un jeune qui a du flow. C'est un joueur qui, du coup, touche beaucoup tous les CDR, etc., qui aimait beaucoup Neymar et qui, du coup, aujourd'hui, aime beaucoup Xavi Simons. Xavi Simons a beaucoup de talent. C'est un joueur qui peut faire une grande carrière aussi, mais c'est un joueur qui reste jeune. Les matchs face au Real, il a été bon, mais moi, je suis d'accord avec Basto dans le sens où, j'ai lu Twitter, moi, je n'avais pas vu le match aller, j'ai vu le résumé. J'ai lu Twitter, je me suis dit, wow, Xavi Simons, ça fait une perf de malade. Ok, vas-y, je vais aller voir le résumé. Je regarde le résumé. Je n'ai rien vu. Donc, pour moi, en fait, c'est un bon match de Xavi Simons, parce que sur un résumé, évidemment, il y a aussi le contenu. Hein. Je suppose qu'il y a des choses de Xavi Simons qu'on n'a pas vues. Des fois, il casse des lignes, il dribble 2-3 joueurs. Tu ne le vois pas forcément parce que derrière, ça mène à rien, parce qu'un coéquipier a mal joué. Donc, je ne veux pas me fier que au résumé. Mais ça reste un jeune joueur qui, aujourd'hui, est-ce qu'il aurait sa place de titulaire au Paris Saint-Germain? Je ne suis pas forcément sûr. Dans le milieu actuel, oui, forcément, parce que le milieu actuel que tu as, il y a largement de la place pour un Xavi Simons. Mais si l'année prochaine, tu vas chercher 1 ou 2 gros milieux de terrain, est-ce qu'il y aura de la place pour Xavi Simons? Tu vois, c'est ça la question. Alors pour moi, il faut le faire revenir dans une rotation, parce que quand même, sa saison, elle est bonne. Globalement, comme disait Basto, je pense qu'on est sur un 6, 6,5, voire 7. Il fait quand même une belle saison du côté de Leipzig. Même en Ligue des Champions, il a eu plusieurs fois, ou deux fois, je crois, le trophée de meilleur joueur du match. Donc, il y a quand même, tu sens qu'il y a quand même un joueur qui monte en puissance et qui commence, même physiquement aussi, à être très aguerri, qui fait pas mal de différences. Donc, ça peut être un joueur qui t'aide dès l'année prochaine. Et je pense qu'il faut le faire revenir et l'installer dans une rotation à gauche avec Barcola. C'est un mec qui peut jouer aussi faux neuf, il peut jouer dans le milieu à trois. Donc, mine de rien, ça peut te donner beaucoup de solutions. Et je pense qu'un Luis Enrique qui a aucun souci à faire confiance aux jeunes et à leur donner du temps de jeu, de la continuité, je pense qu'il pourrait en faire quelque chose d'intéressant. Mais attention à ne pas surcoter Xavi Simons, attention à ne pas nous le vendre comme un 9 sur 10, alors que pour l'instant, sa saison, c'est du 6,5-7. Ce qui est déjà très bien.
Parce que comment il s'appelle notre ami Pitchhouse, là, qui nous dit Simons est neutre dans les matchs à haute intensité, qui se rappelle de ses performances médiocres en équipe des Pays-Bas contre la Croatie et la France. Il y en a d'autres aussi qui nous disent que Xavi Simons est surcoté, c'est Roberto Rodriguez qui nous dit. Philosophie Enrique, 22 titulaires, ça c'est Hassan qui nous dit ça, mais c'est vrai qu'il pourrait être utile. Mais après, s'imposer forcément au PSG, bon, c'est faut... attention à ne pas surcoter les joueurs et il faut prendre le contexte aussi, championnat allemand, liberté, parce qu'il y a beaucoup de liberté pour les jeunes là-bas pour s'exprimer. Ils ont droit à énormément de déchets là-bas, beaucoup plus que chez nous, où le PSG, ils vont affronter des blocs bas. C'est pour ça que, par exemple, Randal Colomouy a énormément de mal du fait que techniquement, il faut être supérieur à tous les joueurs, dans le sens où, comme tu affrontes des blocs bas, il faut trouver des solutions rapides quand tu es en 1 contre 1. Et il y a Alain Philippe qui nous dit qu'il faut regarder ces matchs avant de critiquer. Bah, c'est ce que l'on fait.
Il y en a un qui nous disait, je ne le retrouve plus, mais je l'ai vu passer tout à l'heure. Et il dit, est-ce que Simons n'a pas déjà atteint son potentiel? Et c'est vrai que c'est une question. Il y a des joueurs que tu vois un potentiel énorme, et tu as des joueurs comme Simons qui t'as l'impression qu'il est déjà prêt et bon un peu partout, mais pas excellent, mais excellent nulle part. Et est-ce que, c'est évidemment avec l'expérience, mais dans son jeu, dans l'évolution de son jeu, est-ce qu'il va fondamentalement changer, trouver des qualités qui vont arriver, qu'on peut voir chez des joueurs? Tu dis, lui, il va vraiment devenir monstrueux. Simons, j'ai l'impression qu'il est déjà allé à 80% sur chaque étape de
son jeu. Il y a beaucoup de qui te valide. Et El Pacodo 7575, est-ce qu'avec Xavi Simons, on n'en fait pas un peu trop? Car je me demande s'il serait bon au Paris Saint-Germain, mais je ne l'enterre pas pour autant.
Je pense qu'on en fait trop. En fait, à partir du moment où tu as des personnes, et c'est ce que j'avais posé la question un moment sur Xavi Simons, j'avais dit, c'était le match aller face au Real, j'avais dit, qu'est-ce que vous avez pensé du match de Xavi Simons? Et en fait, à partir du moment où tu as des personnes qui te disent, match incroyable, il fait des différences de ouf, mais les joueurs à côté de lui lui ont gâché son match, etc. Et tu en as aussi qui te disent, il est surcoté, franchement, c'est pas fou, j'ai pas vu un match extraordinaire, c'est que la vérité, elle se trouve au milieu. Donc, comme on dit depuis le début avec Basto, on est sur un joueur qui continue à progresser, qui fait une saison très intéressante, qui peut arriver au Paris Saint-Germain dès la saison prochaine dans une rotation et gagner sa place petit à petit, qui peut jouer aussi à plusieurs postes, donc ça, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore sur un crack, on n'est pas encore sur un mec qui te débloque des grands matchs. Tout à l'heure, on en parlait au niveau de la carrière internationale face à l'équipe de France, c'était très compliqué. Ça prouve que Xavi Simons a encore des paliers à passer. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il vient de se faire sortir en Ligue des Champions. Sur Xavi Simons, mais il y a eu des bonnes perfs.
Il y a Lemos Victor qui nous dit, c'est quoi sa place? C'est quoi sa place? Et dans quel, système ou dans quel mix vous le verrez au Paris Saint-Germain? Parce que ailier, peut-être trop lent pour jouer ailier. 10, il n'y a pas de 10. Faux neuf, bah, tu peux potentiellement déjà mettre Asensio. À droite, tu as Dembélé, donc c'est déjà trop pour jouer ailier gauche, alors pour rentrer sur son pied droit, c'est déjà pas forcément ce qu'on veut. Et à droite, encore moins. Au milieu de terrain, ce serait concurrencer Vitinha ou Warren Zaïre-Emery. Il y a des possibilités après, c'est pas interdit. Mais effectivement, il met sa place.
Moi, tu vois, un mec dans l'effectif qui joue beaucoup et qui est trimballé un peu partout, c'est Lee. Bah voilà, Simon, ça pourrait avoir le rôle de Lee. En plus performant. C'est-à-dire qu'il peut jouer parfois 8, parfois x9, parfois sur l'aile gauche, parfois sur l'aile droite, selon le match. Est-ce que tu as besoin d'un ailier qui est plus recentré ou plus excentré? Des joueurs comme ça, c'est vrai que c'est à la fois une faiblesse parce qu'il ne se fixe pas un poste. Et donc, il part pas forcément titulaire dans des grands clubs quand tu es vraiment trop polyvalent. Mais en même temps, c'est une force parce que tu finis par jouer les deux tiers des matchs parce que quand ça tourne, tu as toujours une place. Donc, Simons n'a pas vraiment de poste, ce qui est plutôt bien dans le jeu d'Enrique où il faut des joueurs polyvalents. Voilà, maintenant, comme je dis, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent aussi ça ne sert à rien de recruter Bernardo Silva parce qu'on a Simons. Non, on ne va pas refaire cette erreur, s'il vous plaît. Il nous faut un grand créateur de chapeau 1 et après, on voit. Mais la priorité, elle est là.
Les amis. Je suis assez d'accord avec le commentaire de tout à l'heure, juste vite fait pour finir. Ouais. Avec le Nkunku, parce que pour moi, en fait, il peut évoluer à plein de postes comme Nkunku, mais je pense qu'il est mieux dans l'axe, donc que ce soit en faux 9 ou en 8-10. Maintenant, en faux 9, pour moi, c'est léger aujourd'hui, Xavi Simons en faux 9, surtout avec ce que tu as sur le banc et les autres joueurs que tu as et qui peuvent même évoluer à ce poste. Donc, ça me paraît un petit peu léger.
Les amis, on est quasiment 230 en live, on n'a que 68 j'aime. Il faut qu'on aille chercher les 125, s'il vous plaît, minimum 125, 150. On like, on partage sur tous vos réseaux sociaux. Et puis aussi, on réécoute le podcast, sur toutes les plateformes. Alors, pour Xavi Simons, c'est un polyvalent et Enrique aime ça.
Ça, oui. Il l'a déclaré hier ou avant-hier.
Ali Asensio. Ça, c'est vrai. Mais il faut voir, après, trop de polyvalence tue l'essence même du gars. Peut-être qu'il est. C'est vrai qu'au PSG, on ne veut plus de monotâche. Mais il faut au moins être excellent dans une tâche si possible. Il nous reste reçu.
Il n'a pas 34 ans, les gars.
Mais ouais, les gars, vous abusez.
Ils ont été habitués à ce qu'on prenne les retraités à 35-36 ans. Et maintenant, Bernardo Silva, il a 29 ans.
Il a 30 ans cette année.
Il a 30 ans cette année, les gars. Je vais les avoir, les 30 ans. Je suis jeune, les mecs.
Quel est 34 ans ?
Arrêtez, là.
Non. Bon, il nous reste trois petits sujets. Je pense que celui-là va être vite vu. Après, on en a quand même deux gros, donc restez avec nous. Le retour d'Ayman Kari, les gars, revenir pour mieux partir ou seconde chance. Rico, à vous.
Ayman Kari, c'est plus. Alors, je l'ai vu sur les sujets de tout à l'heure. C'était mieux revenir pour mieux repartir. Je pense que oui, on est là-dessus. Pour moi, en fait, on a déjà pas mal de milieux de terrain aujourd'hui qui, pour moi, lui sont quand même supérieurs en termes de niveau, de régularité, même de statut. Donc, sachant que l'année prochaine, c'est quand même le secteur, à mon avis, où tu vas te renforcer. Il y aura moins de place encore pour Ayman Kari. Il y a des joueurs aujourd'hui dans notre milieu qui sont titulaires et qui ne le seront sûrement pas l'année prochaine. Donc, je pense qu'Ayman Kari, qui est jeune et qui a besoin de jouer, et on le voit avec Lorient, qui, à partir du moment où il enchaîne les matchs et a du temps de jeu, est très intéressant. Je pense qu'il faut qu'il puisse avoir de la continuité et avoir du temps de jeu. Donc, pour moi, il faut le reprêter dès la saison prochaine dans un club qui lui fera confiance, peut-être supérieur à Lorient ou pas, mais en tout cas, un club où il va pouvoir avoir du temps de jeu. Et puis après, on verra dans un an ou deux ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, je pense que il faut lui laisser du temps de jeu et le laisser partir dans un autre club. En prêt, évidemment.
Ouais. Bah, là, il joue ailier gauche à Lorient, c'est assez marrant. Enfin, il joue assez ailier recentré. Il ne joue pas milieu. C'est vrai qu'il a depuis un an et demi, il a eu beaucoup de temps avant de passer dans le 11 à cause de blessures, de rechutes et parce qu'il découvrait déjà la Ligue 1 avec Lorient. Donc, Lorient l'a bien géré là-dessus. Ils ont été très patients et il est vraiment titulaire depuis fin décembre. Et ça correspond à la bonne forme de Lorient en plus, qui revient bien en 2024. Il a été le joueur du mois de février, d'ailleurs, de Lorient, si je ne me trompe pas, ou de janvier, je ne sais plus.
Oui, ouais, exactement.
Donc, c'est bien, mais voilà, dans ce rôle de… Alors, c'est vrai qu'à Lorient, il joue plus ailier, mais à Paris, si tu as un rôle de 8 ou ailier, on vient de parler de Simons, qui pourrait déjà être dans la rotation. Tu as déjà Lee à ce place, tu as Asensio, car il a absolument pas… Il ne trouverait pas sa place là-dedans, à part jouer… comme Ethan Mbappé en Coupe de France contre une D6 ou rentrer 5 minutes en Ligue 1. Non, ça ne servirait pour personne, ni pour le club, ni pour la progression du joueur. Donc, évidemment, Kari prêté. Et j'espère qu'ils trouveront un club comme Lorient qui sait bien le gérer et l'intégrer sans avoir brûlé les étapes avec lui.
Est-ce que les prêts de 2 ans sont encore faisables au cas où? Et puis, parce que, rappelez-vous, une époque où il y avait… comment il s'appelle, les histoires de Jonathan Ikoné, ou comment ils, c'était leur génération, les Jean-Christophe Baébec, etc. Ils étaient beaucoup prêtés, prêtés, prêtés. Au final, ils sont jamais revenus convenablement au club et malheureusement, ils ont fait carrière en espérant revenir à Paris. Le but aussi, c'est que le joueur aussi s'épanouisse quand même.
Non, mais
Parce que c'est l'ambition.
Ça va finir comme Kalimuendo, je pense. Ça va être une même gestion. Un premier prêt,
Ouais,
un deuxième
Kalim,
un
ça
peu
va.
plus gros, puis après, si tu arrives à en faire un billet.
Lemos, Victor, qui nous dit tu le prêtes à Lille.
Mais Lille, il jouera pas à Lille, hein?
Lille, oula, avec
Exactement.
des Bentaleb, avec. Si tu me parles
Et
de deux fois,
Mayulu,
André
il parle de
Gomez,
Gary. Et
Gomez,
leur jeune de 16 ans, en plus, qui
Ova,
prête
et je ne sais
pas.
pas moi,
Ouais.
il y a Rémi Cabella, etc. Il y a des joueurs à Lille, hein, les gars. À Lille, rappelez-vous, on n'a pas gagné contre Lille à l'aller, chez eux là-bas. Donc, et ça prouve des choses. Lille, ils sont encore en Coupe d'Europe. Là, on parle de Lorient, un club qui est plus ou moins en difficulté, mais voilà. Il y a Alain Philippe, j'y résume.
Qui est de très
Ivre,
mauvaise foi.
encore lui,
ah,
il nous a
attendez.
dit que Bernardo Silva était neutre.
Non,
Hein.
attendez, je résume. Il faut virer Kimpembe, ne pas prendre son de Simons, prêter Carri, puis il faut aller chercher des joueurs finis comme Bernardo Silva. J'espère que Enrique ne pense pas pareil. Alors déjà, on ne pense pas ça, nous.
Guardiola ne le pense pas d'ailleurs, donc ça me rassure.
Non, mais on pense pas ça et on n'a jamais dit ça, nous.
Alors,
Qui a dit
virer Kimpembe, non, mais c'est juste qu'on ne sait pas s'il est blessé. Ne pas prendre Simons, non, mais
Simons,
pas
on le fait
titulaire, on a
revenir.
dit dans la rotation. Et par contre, oui, on prend Silva parce que ça fait 10 ans que tu vois bien que ce qui nous manque, c'est des créateurs bas et créateurs au milieu à Paris, qu'on n'achète pas le gros milieu et c'est ce qui nous fait défaut depuis 8 ans. Mais bon, si tu veux continuer là-dedans, Alain Philippe, pourquoi pas?
Et puis Finito, il joue quand même sous Guardiola depuis des années.
Alain Philippe, est-ce que le projet Colomouani, Youssouf Fofana, Kempfré Thuram te plairait plus, toi?
Non, mais ça, après. Ça, c'est après. Voilà. Mais bon, Aymen Carrie, en soi, au PSG aujourd'hui, non seulement il ne viendrait pas forcément aider plus que ça, il perdrait plus de temps qu'autre chose, parce que les jeunes joueurs, ils ont besoin de
Comment ça,
jouer.
il joue pas beaucoup, mais il est fou, Alain Philippe.
Ah, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, les gars, après, ils sont trop. Non, non, on va pas s'en sortir.
Il
Bon.
joue tous les matchs.
Oui, Mayulu,
Un,
Mayulu, Mayulu, les gars. Je vous le disais tout à
un,
l'heure, on a
un.
parlé de Carrie, ça revient, Mayulu. Vous en pensez quoi?
Ouais, ça, écoute, on va faire un question-réponse à la fin de l'émission parce que on a encore deux sujets. Un sujet qui va être très long, selon moi. Peut-être que vous allez vite, vite, vite le mettre de côté. Achraf Hakimi, les gars. Mauvaise forme passagère ou vrai coup de mou depuis la Coupe d'Afrique des Nations, même un petit peu plus longtemps. Basso, justement, on a vu que le match d'Hakimi, nous on a commenté ça, enfin on a commenté ça, on était en live, on était ensemble, donc on a vu lui-même, on a constaté, toi tu n'étais pas avec nous mardi. Tu vois comment Hakimi sa période? Comment tu vois sa période? Parce que moi, sur le plan personnel, je ne suis pas inquiet tant que ça, mais.
Bah, Hakimi, ce qui est. En fait, ce qui est énervant, c'est qu'il nous fait la même chose chaque année. Il commence très fort, puis il y a des moments, des coups de mou, puis il revient bien, puis il y a de nouveau des périodes où il ne va pas être bon pendant un mois, 2 mois. Et il n'est pas mauvais. On ne peut pas dire qu'il est mauvais. Il y a eu des périodes bien pires la première année, oui. Il n'est pas mauvais, mais il est énervant. Toujours les mêmes cartons jaunes qu'il prend, toujours les mêmes petites bêtises, toujours du déchet à un moment de l'année. On a l'impression qu'il va jamais être constant. Sur une année complète, maintenant, c'est pas le poste où on a le plus besoin. Faut pas oublier que pendant jusqu'à décembre, quasiment notre unique plan de jeu qui marchait, c'était ce côté droit Hakimi Dembélé. Donc on va pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai qu'il est énervant. Il est plus frustrant que enfin, j'ai même pas. Tu sais, c'est pas un joueur que tu critiques ou t'es énervé. Non, c'est juste un joueur que tu critiques. Tu fais pourquoi? C'était un peu frustré, quoi. Donc oui, Hakimi est fatigant. Voilà, c'est le mot. Mais fatigant dans un sens, je le dis avec bienveillance, mais il est fatigant.
Mais
Ouais,
qu'on
c'est un
va.
joueur qu'on attend, c'est un joueur qu'on attend, où on attend beaucoup plus, forcément. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Et ce qu'il nous donne depuis l'avant CAN, même depuis deux, trois matchs avant le début de la CAN, avant qu'il parte à la CAN. Et puis après, il y a eu cette CAN où il y a eu ce pénalty raté, l'élimination de son pays à cause de lui. Il a mal digéré. Aujourd'hui, il a du mal à revenir à son top niveau qu'il nous a donné sur les premiers mois de la saison. Donc forcément que déjà de base, on était. Ouais, très frustré, comme le dit Basto, par ce joueur qui peut donner énormément. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de décisions qu'on ne comprend pas. énormément de fois où il cherche toujours Kylian, où il peut jouer avec d'autres coéquipiers, il joue pas avec, des décisions des fois trop tardives, trop. Ouais, c'est plus frustrant qu'énervant. Maintenant, il nous a déjà donné un top niveau cette saison. Je pense qu'il peut retrouver ce niveau-là, mais espérons qu'il le retrouve parce que oui, il y a d'autres joueurs qu'on peut aller chercher. Il y a aussi le départ de Kylian, donc forcément, il va arriver à 2 ans de la fin de son contrat, si je me trompe pas. Donc, il va falloir se poser cet été autour de la table et discuter de est-ce qu'on prolonge ou est-ce que monsieur veut partir. Donc, après, pour la forme, je pense qu'il va retrouver cette forme-là. Je ne me fais pas de soucis. Ça reste quand même un très, très bon joueur et il était très à l'aise dans ce collectif-là. Donc, je ne vois pas pourquoi il le perdrait d'un coup et ça ne reviendrait pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de la tête au PSG ou au Real ou ailleurs, peu importe, je pense qu'il va falloir quand même discuter de ça parce que ça va être important et un dossier important à gérer.
Ouais, parce que les gars, on a quand même... il y a Eray qui nous dit « Gato Basto Reco, c'est comme Figo Adriano Recoba. » Ah oh, ouais, c'est... Recoba, c'est Recoba. Qui est Adriano, qui est Figo? Ça, après, ça, on va gérer ça plus tard, Basto. On va déterminer qui sont nos rôles. Hakimi, il y a eu des commentaires quand même. Hakimi, actuellement, je pense que c'est physiquement son problème. Il a un gros volume de course, mais on le voit moins en ce moment. Ceci explique peut-être cela. Moi, les gars, je vous dis, franchement, Hakimi, ses deux premières saisons, elles sont décevantes. Après, c'est totalement explicable avec les problèmes avec les Sud-Américains. Il y a une adaptation aussi. Tu arrives en France, ce n'est pas forcément évident. Je joue contre des blocs bas, alors qu'à l'Inter ou à Dortmund, tu es habitué à vraiment jouer piston et pouvoir venir même marquer. Il marquait, il était vraiment décisif. C'est un gars qui avait des 10, 15 GA, normal. Non, Hakimi, les deux premières saisons sont décevantes. Là, demi-saison qui vient de passer, elle est excellente, tu vois. Et là, ça prend pas le chemin. Ça prend pas le chemin. Depuis son penalty manqué face au Maroc, il faut qu'il se reprenne. On compte sur lui. Moi, j'aimerais le conserver. Maintenant, s'il veut partir, je vendais cet été. Et pas, c'est pas grave. Il faut partir dans l'esprit que dès que un joueur veut partir, pas grave. Il veut partir, il part. Par contre, il part à nos conditions. C'est là où on va voir si on a grandi ou pas grandi. Et Hakimi, s'il y a des vérités de départ, très bien. On se serre la main. Merci. On va pas te cracher dessus. Toi, t'as rien fait de mal. On se serre la main. Au revoir. Et si tu veux partir, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut terminer la saison correctement. Il faut plus d'Africains, les gars. J'ai compris que très longtemps, trop compliqué à gérer avec la CAN. En pleine saison, même s'il peut y avoir une ou deux exceptions. Franck Durand, il faudrait que tu nous expliques
compliqué un peu plus. Compliqué avec les départs à la CAN en pleine saison.
C'est vrai que Marseille, par exemple, qui avait 6-7 départs, ils n'ont pas gagné un match en janvier.
Oui, mais ça Marseille, dépend comment ton effectif est structuré. Il
y a énormément de départs en même temps.
Oui, nous, au même poste. Ça. Et au même poste.
Il n'y a que Hakimi. Les gars, nous, avec notre puissance financière et la richesse d'effectif à gérer le départ d'un seul joueur, même logiquement, si Mbappé part, tu peux faire autrement. Voilà.
Et après, c'est vrai que le problème, c'est que celui qui est parti à la CAN, Hakimi, c'est celui où on n'a pas de remplaçant. Donc, il revient, il est peut-être un peu cramé parce qu'on n'a pas pu le faire tourner assez. C'est vrai que quand tu vois que c'est Solaire ou Zaïre Emery.
C'est vrai aussi qu'Hakimi a enchaîné beaucoup. Il a enchaîné la CAN. Psychologiquement, pas évident non plus avec la défaite qu'il a pu avoir. Donc, c'est vrai que physiquement et psychologiquement, ce n'est pas une saison évidente pour lui.
C'est pas évident. Maintenant, Marquinhos pourrait jouer latéral, mais ça n'a jamais été travaillé. Ça, c'est terminé, les gars. Ça, c'était Marquinhos au début. Avec les
non, mais Alex, tu peux jouer dans un. On en parlait tout à l'heure. On peut jouer dans un asymétrique avec 3 centraux et Nuno un peu plus haut. Mais on verra bien. Mais je pense qu'en termes de niveau, en tout cas, il peut revenir à son top niveau. Ça, c'est pas la question. La plus grosse question pour moi, ça reste son investissement à long terme ou pas.
Gâteau, tu dis non, mais en quart de Ligue des Champions, tu préfères jouer dans un truc asymétrique avec Marquinhos ou alors avec Solaire arrière droit?
Ah, je ne sais pas. je sais pas contre qui je joue, donc je peux pas. Moi, je suis un gars qui m'adapte. Voilà, moi je suis un caméléon. Voilà, tu vois.
Et pourquoi il ne fait pas jouer Mukiele? Ça va bien se trouver. Voilà.
Mukiele, il ne jouera pas Mukiele.
Je ne sais pas ce qu'il a contre Mukiele.
Après, il n'est pas bon quand il rentre en jeu. Ça fait 2, 3, 4 matchs. Quand il rentre, il n'est pas bon. Donc...
Ok, les amis. Donc, Hakimi, on a à peu près le même avis. Ça, c'est bien. Vous aussi, en commentaire, vous avez quand même. Hakimi, c'est juste un fainéant qui choisit ses matchs. Quand même pas. Parce que, quand même s'il rate des trucs.
Monaco et Sociedad.
il rate des trucs, mais il se donne. Il se donne, quitte à faire des trucs bêtes, à l'image du carton jaune, notamment sur le match de Champions League, mais au moins il se donne. Donc, dire ouais, qu'il choisit ses matchs, non. En plus, il a porté le brassard à Monaco pour la première fois à la sortie de Kylian Mbappé.
Alors, ouais, le match contre Monaco est très mauvais, mais dans l'investissement, on l'a énormément vu. Donc,
Il s'investit, on ne peut pas dire qu'il se cache, il se donne. Dire qu'il ne s'investit pas, non, ça, ce n'est pas vrai. On peut dire qu'on n'aime pas sur comment il s'investit, il s'investit mal ou il réagit mal aux choses. Ça, on peut l'écouter et il faudrait encore qu'on en débatte. Mais dire qu'il ne s'investit pas ou qu'il choisit ses matchs, non, dès qu'il est là, il se donne à 110, 130%. 130%, ce n'est pas quelqu'un qui est en capacité de le faire aujourd'hui, mais cet homme est revenu titulaire pour la première fois et c'était en Ligue des Champions. Nuno Mendes, un retour trop tôt ou parfaitement maîtrisé, selon toi, mon cher Recoba, c'est comment ?
Je dirais plus forcé. Je pense qu'il n'aurait jamais, en temps normal, démarré face à la Sociedad, même si lui semblait physiquement assez prêt. Dans un monde idéal, je pense qu'il serait rentré et il aurait joué titulaire ce match demain face à Reims. Maintenant, il y a eu la blessure de Danilo et Marquinhos qui ont précipité le fait qu'ils doivent jouer titulaire et c'est pour ça qu'on l'a vu titulaire face à la Sociedad. C'est pour ça aussi qu'on l'a vu en délicatesse sur les 15-20 premières minutes et que petit à petit, il est monté en puissance. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pour ça que je pense qu'il a été un petit peu précipité parce que je pense que la première titularisation qu'il aurait dû avoir dans un monde normal, ça aurait été demain face à Reims.
Monsieur Bastos, il en pense quoi ?
Bah, je pense que c'est aussi légèrement forcé. Maintenant, je suis assez agréablement surpris de voir Nuno déjà à ce niveau-là, même s'il manque encore évidemment un point d'accélération, etc. Mais ça conforte ce qu'on disait sur les médecins du PSG cette année. C'est vrai qu'on avait beaucoup de retours précipités avec soit des rechutes, soit des joueurs qui mettaient un mois avant de retrouver leur forme. Cette année, quand on a des longues absences, les joueurs viennent, ils sont assez rapidement performants. Alors là, l'entrée contre Rennes m'avait fait un peu peur de Nuno parce qu'il avait vraiment aucune accélération, que des passes en retrait. Je m'étais dit, ça va peut-être falloir attendre du temps. Et puis dès Monaco, tu vois que il retrouve ses automatismes et même une ou deux accélérations. Avec le Sociedad, c'était un peu compliqué en début de match. Mais entre la 20e et sa sortie, on le voit faire ses sorties de balles sous pression. On voit son intelligence tactique et on voit que physiquement, il a été plutôt là. Il y a eu une action où il fait un peu le tour sur le joueur. Et donc voilà, Nuno agréablement surpris.
Ouais, les gars, à mon avis, je vous disais déjà, Mendes, je comptais même pas sur lui cette saison. Parce qu'un jeune joueur autant blessé, franchement, je préférais qu'il fasse son truc tranquillement. On voit le contrat, c'est comment par la suite. Mais je ne comptais même pas sur lui cette saison. J'imaginais même pas un retour. Voilà, il était très mal utilisé l'année dernière par Christophe Galtier, surutilisé. Ils ont tiré sur la corde. Dès lors qu'il y a des joueurs devant qui défendaient peu, et il était trop... amené à monter, descendre. Donc, je ne comptais vraiment pas sur lui cette saison. Dieu merci, il est là. Déjà, il peut jouer au football, il est en forme. On voit qu'il n'est pas à 100%. On voit qu'il est un peu sur la retenue, ce qui est logique. Il y a l'approche psychologique qui fait que aussi, tu n'as pas envie de te répéter. Et pourtant, il est là, il fait chose correctement. J'y n'ai surtout pas titulaire, encore moins. Je pensais qu'il y aurait peut-être une rentrée. Mais il est là et il fait en sorte de faire son boulot tranquillement. Donc, on va en profiter. S'il peut jouer titulaire et être là plus souvent, c'est mieux. Mais j'ai l'impression que, sans fin de compte, c'est des circonstances. Parce que je pense pas que s'il y avait eu Marquinhos plus Danilo qui aurait occupé l'axe central, Beraldo ou même Lucas Hernandez aurait pu jouer à gauche. Kimpembe n'étant pas là non plus, il ne peut pas supplier sur ce côté-là. Avec Beraldo est là et qui est à gauche des fois, mais ça a permis à Nuno Mendes de jouer et il a bien joué en plus.
Après, ça annonce Nuno qui enchaîne encore demain avec Beraldo qui sera reposé. Bon, après, il faut voir parce qu'on ne sait jamais les compos. Mais la presse voit Danilo revenir dans le 11 en défense et Beraldo reposé, Nuno à gauche toujours.
Justement, par rapport à ça, ça me fait. Justement, par rapport à ça, le fait qu'on ne connaisse jamais le 11, et par rapport aux commentaires juste en dessous, on a un super staff médical, Dembélé, Lucas Hernandez, ça n'a pas bougé alors qu'ils font moins de 30 matchs par saison normalement. C'est vrai que le staff médical est, pour une fois, à mettre au crédit d'un très bon travail. Sincèrement, ça n'a pas toujours été le cas au Paris Saint-Germain. Et cette année, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Hernandez et Dembélé sont de vrais exemples qui, normalement, voilà, ont souvent des blessures. Et Nuno, ça a été très, très bien géré aussi. Et justement, le fait qu'on ne connaisse jamais les 11, ça montre aussi qu'il y a un vrai turnover et qu'il y a une vraie gestion des forces en présence. Et ça permet de faire souffler très souvent certains joueurs. Et qui, du coup, ça te permet d'avoir tout le monde à 100% pour les grosses échéances. Là où, avant, on tirait un petit peu trop sur la corde et on se retrouvait avec pléthore de blessés. Donc là, c'est cool.
Il y a Alain Philippe qui nous dit que Lucas Hernandez à gauche, c'est catastrophique. Les gars, comment ça... Alain, c'est bon, on a compris. On a compris. Donc, c'est bon, là. Merci. Les gars,
on va commencer. C'est vrai, avalanche de blessures à Madrid et Barcelone, ouais.
Ah, mais ça, les gars, on connaît. Il nous reste 5-7 minutes pour parler des questions-réponses, sur nos petites questions-réponses. Donc, toutes les personnes qui avaient des questions et sur lesquelles on n'avait pas répondu. On va commencer par Brad. Brad qui nous dit, vous pensez quoi de Gyökeres au Paris Saint-Germain? Alors les gars, tout ce qui vient du championnat portugais, je m'en méfie fortement. Désolé de le dire. Parce que on critique la Ligue 1 à juste titre, ou dès lorsqu'il y a le PSG, il y a d'autres chapeaux, il y a un chapeau 2, et après il y a un chapeau droit qui est très grand, mais... Là, je suis désolé, le Portugal, il y a un chapeau 1, il y a le chapeau 1 avec les clubs lisboètes plus Porto, et la suite aussi, c'est pas terrible. Donc c'est bien d'aller marquer contre les Braga, les familles KO, et tout ça, oui. Et la suite, j'ai mes doutes. Et au PSG, je pense que pour ce joueur-là, il faut une étape supplémentaire, comme un club comme Lyon, comme Monaco peut-être, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et là, OK, on peut commencer à parler. Et moi je...
Voilà. Quand un club comme Brighton le prête 2-3 fois et décide de s'en séparer alors qu'on connaît leur détection absolue de joueurs à fort potentiel, donc Brighton n'a pas cru en lui. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a 25 ans. Il explose cette année dans un championnat où d'autres joueurs ont explosé. On peut penser auprès de Sarabia, de Paris au Sporting, où Sarabia a marqué but aussi, but sur but et passe D sur passe D. Et un joueur qui explose comme ça à 25 ans alors qu'il était en D2 anglaise, à 24 l'année d'avant, c'est le moment où le Sporting va essayer de le vendre 90 ou 100 millions. Et j'espère qu'on ne sera pas le pigeon qui va aller sur un prix comme ça. Alors après, peut-être que je me trompe et que Gyökeres ira dans un grand club et sera très performant. Il y a des joueurs aussi qui ont une éclosion tard, mais ça semble tout du piège et de la fausse bonne idée.
Oui, je suis assez d'accord avec Basto. Ouais. Mais je ne me prononcerai pas parce que j'ai une vidéo sur lui cet après-midi.
Ah, donc allez suivre. Les gars, vous allez suivre la vidéo de Rekova, bien évidemment. Tous nos chroniqueurs ont quasiment tous une chaîne YouTube que la mienne personnelle, je vais la réactiver dans un peu de temps. On va faire des petits contenus aussi. Et on va parler d'un peu plus que du PSG, du football global et même du catch. Ça, c'est pour plus tard. Alors, faut prendre des risques pour gagner. Oui, ça, c'est sûr. Y a quoi d'autre comme question intéressante? Les gars, n'hésitez pas à poser des questions.
Moi, j'ai vu que ça parlait de Vinicius, mais bon.
Vinicius, voilà, avec les discothèques, il n'est pas très bien structuré pour éviter les polémiques, comme au Real Madrid. Ouais, ça c'est. Vous savez, les discothèques.
Il y a une question comme ça qui revient. Il y a une question comme ça qui revient souvent, c'est avec le départ de Kylian, est-ce que justement des grands joueurs auront envie de venir ou pas?
Je ne vois pas trop le rapport, mais.
Bah, allez-y, répondez.
Tu sais, je pense que tu as compris de toute façon, mais personnellement pour moi ça change rien, et au contraire, quand tu as un Mbappé qui prend toute la lumière et que tu vois, tu es un joueur, on l'a vu beaucoup avec Di Maria et Messi en Argentine, tu as beau faire des grands matchs, être l'homme du match des finales ou des choses comme ça, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur parce que justement tu as des mecs comme ça qui prennent toute la lumière. Donc au contraire, ouais. Je pense que évidemment ça, c'est toujours un plaisir de jouer avec des joueurs comme Mbappé, mais je ne vois pas pourquoi ça briderait quelqu'un. Au contraire, tu serais plus reconnu à ta juste valeur, tu serais peut-être aussi plus important dans le vestiaire. Donc pour moi, ça ne change rien fondamentalement.
Il y a Vincent qui dit un truc intéressant. Je pense qu'on en a déjà quasiment répondu dans l'après-match. Les gars, Mbappé a joué à son poste mardi et c'était cool. Mais pas Dembélé ni Barcola. Comment faire?
Barcola, en soi, si, hein, il a joué à droite à Lyon C'est plus un allié droit qu'un allié gauche de base, Barcola.
Parce que le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as une force comme Mbappé qui crée des équipes dans les défenses adverses, mais dans ta propre défense aussi, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément faire les efforts défensifs, tu es obligé de compenser par autre chose. Et tu es obligé d'être symétrique avec lui.
Et puis je pense que
ça marche Mbappé... contre la Real Sociedad, mais ça ne marchera peut-être pas tout le temps aussi.
C'est ça. Moi, je préfère aussi Mbappé à gauche offensivement, comment, pour ses appels et ses appels croisés, comment il joue, etc. là-dessus. Maintenant, je pense que c'est très circonstanciel, la Sociedad et le positionnement de Dembélé. C'est parce que la Sociedad est une équipe, Enrique a vu à l'aller, qui est assez scolaire dans ce qu'elle fait et très appliquée, qui n'aime pas être chamboulée. Donc je pense que c'était, on ne va pas revoir Dembélé en 10 demain ni la semaine prochaine.
Et est-ce qu'on reverra Mbappé à gauche? Parce que maintenant, avec le retour de Nuno Mendes, on sait que le côté gauche, c'était un de nos points forts. On sait aussi que défensivement, le fait d'avoir Nuno Pio, ça permet justement à Mbappé d'être là, plutôt que d'avoir besoin, avec un Lucas Hernandez qui est très bas, d'avoir besoin d'un Barcola qui est à gauche et qui défend. Est-ce qu'on reverra Mbappé à gauche ou pas?
Je ne sais pas. Ah. Mais Nuno Barcola, ça peut être pas mal aussi.
Nuno Barcola, ça peut être pas mal aussi, ouais. On aura peut-être des réponses demain, mais... Mais en tout cas, ça offre beaucoup de possibilités. Hein. Parce que tu peux, avec Mbappé à gauche, tu peux aussi avoir Ramos en pointe.
Ouais. Qui peut aussi aider et surtout gêner les défenses pour permettre à Dembélé de s'introduire ou autre. Il y a pas mal. C'est ça aussi qui est bien. Là, aujourd'hui, dans notre effectif, on a des solutions plurielles, non pas un point sur lequel il faut absolument tout donner. Salut tout le monde, ça fait quelques émissions que je vous ai découvert, c'est super comme podcast. Merci MGB, n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à liker. Bon, bah écoutez,
est-ce qu'on j'ai pas vu la question de Ramesh, j'ai préféré ne pas la voir.
Ouais, moi aussi, ouais. Je ne la voyais pas, allez, tiens, je te fais plaisir, mais.
J'ai toujours pas vu.
Deschamps. Non, je sais pas. Les gars, arrêtez ça. Subforzo qui nous dit Colo, il revient quand?
Bah, il est jamais parti.
Et on a le meilleur ami de Colo qui va peut-être répondre.
Ah, Colo, ouais. Maintenant, c'est sorti de banc. Hein. Sorti de banc à gauche ou à droite.
Il aura titulaire en Ligue 1, je pense qu'il sera titulaire contre Reims, tu vois, à la place d'un Barcola. Je me souviens pas de poser, quoique Barcola est sorti à la pause.
Peut-être Dembélé. Dembélé a joué tout le match, je crois, non?
Il me semble que Dembélé, justement, non. Sorti pour Kolo Muani ou comment il s'appelle?
Ouais. Il sort à la 80e, Dembélé.
Ouais, il me semble qu'il est sorti. J'ai pas vu jouer tout le match, selon moi.
Bah, ça va rentrer une fois de plus, ou alors ouais, ce sera titulaire à la droite ou à gauche.
Et bon, c'est devenu un 14-15e joueur.
Ouais. Ramos, il a mangé Kolo quand même sans jouer. Ouh là là, ouais, ça c'est des débats qui sont durs. De toute façon, à la fin de saison, on va faire. Il y aura des Sarès, ça dégage comme la saison dernière. Et on verra. Les gars, bon, je pense être la dernière question. Les gars, vous pensez que Enrique sera conduit la saison prochaine?
Pourquoi il sera reconduit? Oui, et puis il y a son année en option, je pense qu'elle sera activée. Ça se passe bien, les résultats sont là, le groupe vit bien. Luis Enrique a encore encensé Luis Campos pour les recrues, notamment pour Beraldo. Donc les deux, je pense qu'ils travaillent main dans la main et ça se passe plutôt bien. On va voir cet été comment ça se passe quand même et s'il a les joueurs qu'il veut, mais il n'y a pas de raison, on est sur un projet long terme, donc il n'y a pas de raison qu'il parte dès cet été, même si j'ai vu des offres du Barça ou quoi que ce soit pour racheter déjà le contrat de Luis Enrique. Il va falloir qu'il se lève tôt et on sait très bien que financièrement parlant c'est très compliqué pour le Barça, donc je ne vois absolument pas Luis Enrique bouger.
Allez, on y va. Dernière des dernières. Colo, c'est l'année pro qu'on le verra. Il a encore le poids du transfert sur le dos. Alors, les amis, moi, je vais vous dire clairement, au-delà du poids du transfert, même si on perd de l'argent, moi, j'ai dit, j'arrête l'hémorragie. Colo Muani, j'étais pas monté. Je ne descendrai pas du train parce que j'étais pas monté. Ça paraît facile de dire aujourd'hui. Ouais. Mais franchement... Bizarrement, Ramos, qui a joué pas forcément beaucoup de matchs, etc., je me dis, je laisse une année en plus, l'adaptation, etc., la langue, il sort à peine de Benfica, ça reste un plus jeune joueur et tout. Kolo Muani, la logique voudrait qu'on lui laisse une année, et moi, si j'ai une offre qui est assez honnête, moi, je le vends. les contrôles ratés, tout ça, c'est pas évident pour lui. D'autant plus qu'il met de la volonté. C'est pas un mec qui ne veut pas faire, qui est un flemmard. Il essaie de faire, vraiment, il n'y arrive pas. Et ça me fait plus de peine déjà pour lui qu'autre chose. Donc, moi,
malheureusement, il va rester. Hein. Voilà. Il va rester 4-5 ans, je le sens. Son salaire, c'est le problème des gros salaires qu'on donne à des joueurs qui ne le méritent pas forcément. Son salaire fait qu'il n'y a aucun club qui va se positionner dessus en dehors que pour un prêt.
Ou la première ligue. Un championnat dans lequel il pourrait avoir plus d'espace et que ce serait peut-être plus jouable pour lui. Mais je suis d'accord avec Gâteau. Pour moi, c'est surtout que tu vois qu'il y a il est limité, quoi. Tu vois que le step est trop haut pour lui. Et là où Gonçalo Ramos, tu sens qu'il y a un vrai potentiel et qu'il peut vraiment t'apporter quelque chose si tu lui donnes de la confiance et de la continuité, tu te rends compte qu'avec Kolo Muani, c'est quand même pas pareil et que techniquement, c'est pas du niveau d'un très grand club. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il a une polyvalence qui fait qu'il peut jouer à gauche, à droite et devant. Donc, quand tu l'as dans ton effectif, c'est un plus. Mais les rentrées qu'on voit, c'est quand même très limite. Quand il est titulaire, on voit pas grand chose.
La rentrée contre Rennes, les gars.
À 8 sur 8 perdu.
C'était difficile. Et le pire, c'est qu'il essaie. Même son match, il était titulaire contre Nantes, ou il est rentré contre Nantes, je sais plus. À Nantes, là-bas, à la Beaujoire, le match est gagné un peu au forceps. Et malheureusement. Et il a eu des chances, c'est ça qui me fait mal pour lui. Donc, c'est comme Ekitike. Des fois, tu te rends compte que les mecs, c'est trop pour eux. Il faut tout de suite réagir. Alors, oui, 90 millions, c'est perdu. On ne retrouvera jamais 90 millions, selon moi. On ne va pas le revendre 90 millions. On va perdre de l'argent là-dessus. C'est comme ça, malheureusement. Et il faut être honnête et je pense que Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est trop pour lui. Tandis que le Paris Saint-Germain a régressé. On parle d'un club qui repart d'en dessous pour repartir avec de jeunes joueurs qui ont un fort potentiel, qui commencent à progresser avec un coach comme ça.
Kolo ne marque pas plus que Gonzalo, Mineral. C'est faux, encore une fois.
Oui, c'est faux. C'est faux, et techniquement, il y a un monde, malheureusement, et je suis d'accord avec Drixinho, c'est totalement ça, c'est intrinsèque. Et il a été mis en confiance, j'ai vu un commentaire passer, c'est faux, il a été mis en confiance, il a eu beaucoup plus de continuité, il a joué devant, il a joué à droite, donc non, c'est pas vrai. Mais c'est intrinsèque, je suis d'accord.
Après, il y a Warren qui nous dit, regardez sa finale de Coupe du Monde, et ça fait déjà un an et demi la finale de Coupe du Monde, les gens, on ne fait pas la carrière sur un match. Six mois après, il n'a même pas confirmé en équipe de France où il est en train de se faire passer par Marcus Thuram et Giroud qui reprend sa place. Donc, il est numéro 3 dans la hiérarchie parce qu'il n'est pas performant en équipe de France. C'est bon.
Et les gars, attention les gars, est-ce que sa présence à l'Euro n'est pas menacée, les gars? Alors, si tu as une liste élargie,
quand tu as Barcola.
C'est ça le problème.
Deschamps est très conservateur dans son groupe, dans ses groupes, dans ses constitutions de groupe. Donc, je ne pense pas qu'elle est menacée pour l'Euro, mais pour l'après-Euro.
Attention, t'as devant, t'as Giroud, t'as Thuram, t'as Barcola maintenant qui peut jouer sur les côtés, qui peut être une très très bonne solution aussi en sortie de banc justement. Donc à voir les blessures et tout, mais
qui vient d'un attention. Coup comme ça. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de surprises avec Didier Deschamps, mais bon, très bien. Les amis, un grand merci de m'avoir accompagné dans ce live. Désolé si je regarde pas forcément toujours la caméra, parce que je lis évidemment vos commentaires. Merci d'avoir réagi. On vous laisse encore liker, partager, prendre du plaisir, les centristes. On vous dit donc à la prochaine. Le prochain live, ce sera le débrief du Paris Saint-Germain qui reçoit le stade de Reims demain. Voilà. Branchez-vous donc à partir de 13h pour le match. Et je sais pas, c'est 15h, 16h à peu près pour le débrief. Tranquillement.
Et aux alentours du stade, soyez là vers midi, il y aura un micro-trottoir, donc si vous êtes dans les parages, on se voit.
Et vous pourrez peut-être avoir la présence de Rekoba et de moi-même, ainsi que de Surakata, donc faudra voir si les gens sont déter, venez, il y aura de quoi faire, tranquillement. Donc les amis, on s'attrape dès demain pour le débrief, dès demain pour le micro-trottoir, et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Ciao.
Salut tout le monde.